Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble, celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau. Tous les hommes reconnaissent qu'il existe un droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser de prêter allégeance au gouvernement et le droit de lui résister lorsque sa tyrannie et son inefficacité sont profondes et insupportables. Mais presque tous clament que ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. C'était le cas, juge-t-il, lors des anciennes révolutions. Toutes les machines ont leur point de friction. Et il se peut que cette friction produise suffisamment d'effets positifs pour contrebalancer ses effets négatifs. Mais quand la friction en arrive à posséder sa propre machinerie, quand l'oppression et le vol sont des instances organisées, je dis que nous devons nous débarrasser de cette machinerie-là. En d'autres termes, quand un sixième de la population d'une nation, qui s'est donné pour but d'être le havre de la liberté, se retrouve réduite en esclavage, et qu'un pays tout entier se voit injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale, alors je crois qu'il est bien plus que temps que les hommes honnêtes et les femmes se rebellent et fassent la révolution. Ce devoir est rendu encore plus pressant par le fait que le pays, ainsi envahi, n'est pas le nôtre. Ce qui est nôtre, c'est l'armée d'invasion. Dans son chapitre sur le devoir de soumission au gouvernement civil, Paley, qui fait figure d'autorité morale aux yeux de bien des gens, résume toutes les obligations civiles sous la notion d'utilité. Et il poursuit en affirmant, je cite, « qu'aussi longtemps que l'intérêt de la société dans son ensemble le requiert, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il demeure impossible de résister au gouvernement établi ou de le renverser sans créer de désagrément public, la volonté de Dieu est que l'on obéisse au gouvernement établi. Ce principe étant admis, continue-t-il, la nature juste ou injuste de chaque cas particulier de résistance au gouvernement se trouve réduite à un calcul entre d'un côté la quantité de danger, de souffrance et de l'autre la probabilité de l'accomplissement de la réforme, ainsi que son coût. » Fin de citation. De cela, dit-il, chacun y juge. Mais Paley ne semble jamais avoir envisagé le cas pour lequel la règle de l'utilité ne s'applique pas. Les cas où un peuple, par exemple, aussi bien qu'un individu, doit faire ce qui est juste, à n'importe quel prix. Si j'ai injustement arraché une planche à un homme qui se noie, je dois la lui rendre. Et même si je dois me noyer moi-même. Ceci, selon Paley, serait inopportun. Mais l'homme ou la femme qui sauve sa vie dans un tel cas de figure ne fait en réalité que la perdre. Nous, peuple américain, devons cesser d'entretenir des esclaves et cesser de faire la guerre au Mexique, quand bien même cela nous coûterait notre existence en tant que peuple. Nous avons coutume de dire que la masse des hommes n'est pas prête. Mais le progrès est lent, car l'élite n'est sensiblement ni plus sage ni meilleure que la foule. Ce qui importe n'est pas tant que la foule soit douée d'une aussi grande bonté que vous, mais qu'il existe, quelque part, une bonté absolue. Car cette bonté absolue sera le levain qui fera gonfler toute la masse de la pâte. Il y a des milliers de gens qui sont intellectuellement contre l'esclavage et la guerre, mais qui, concrètement, ne font rien pour y mettre un terme. Qui se proclament les fils de Washington et de Franklin, s'assoient les mains dans les poches, disent qu'ils ne savent pas quoi faire et ne font rien. Et qui vont jusqu'à subordonner la question de la liberté à celle du libre-échange. Et qui, après dîner, consultent tranquillement les cours de la bourse et les dernières nouvelles du Mexique, s'endormant peut-être sur les uns comme sur les autres. Quel est le cours actuel d'un homme ou d'une femme honnête, d'un patriote ? Ils tergiversent et ils déplorent et parfois ils disposent une requête. Mais ils ne font rien. Rien de sérieux, rien d'efficace. Ils attendent, pleins de bonnes dispositions, que d'autres médient au mal, pour qu'enfin ils n'aient plus matière à regret. Au mieux, lorsqu'ils voient la justice se présenter à eux, ils se fendent à son égard d'un vote qui ne leur coûte rien. Puis l'encouragent piteusement à poursuivre son chemin en lui souhaitant bon vent. Il existe 999 champions de la vertu, pour chaque homme vertueux. mais il est plus facile de traiter avec un homme qui possède authentiquement une chose qu'avec celui qui n'en est que le gardien temporaire.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé, donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense donc je suis est formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?